Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Pour une fois, au lieu de lever les yeux au ciel, je vous propose de regarder sous nos pieds. Aujourd'hui, nous parlerons de notre planète, de la Terre. Alors pour cela, il est bon de prendre un peu de recul et de regarder la Terre vue du ciel, et même vue du ciel lointain. La Terre, c'est la troisième planète la plus proche du Soleil, entre Vénus et Mars. C'est une planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'un noyau métallique et d'un manteau entouré d'une croûte rocheuse. Elle est la plus grande des planètes telluriques du système solaire. L'âge de la Terre est estimé à peu près 4,54 milliards d'années. Elle s'est formée en même temps que les autres planètes, à partir de la nébuleuse solaire, cette masse de poussière et de gaz en forme de disque qui gravitent autour du Soleil en formation. La formation de la Terre par accrétion se termine en moins de 20 millions d'années. Initialement, la protoplanète est en fusion, mais petit à petit, le métal se concentre dans le cœur, et la croûte refroidit et se solidifie, lorsque l'eau commence à s'accumuler dans l'atmosphère, aboutissant aux premières pluies et aux premiers océans. Le noyau est fait de fer et de nickel. Il est divisé en un noyau interne, solide, et un noyau externe, liquide. Le noyau interne, malgré la température de plus de 5000 Kelvin, est solide en raison de l'énorme pression qui y règne. Autour de lui se trouve un noyau externe où règne une chaleur quand même de 4500 Kelvin. Cette chaleur provoque le réchauffement du manteau et entraîne des mouvements convectifs des roches qui le constituent. En effet, vu les conditions de pression et de température, les roches peuvent, à grande échelle, se déformer sans se briser. Ces mouvements entraînent aussi le mouvement de la croûte terrestre, ce qui se manifeste par des plaques tectoniques qui bougent de quelques centimètres par an les unes par rapport aux autres. Des plaques qui peuvent s'éloigner, entraînant la création d'une croûte terrestre toute neuve au niveau des fosses océaniques, ou des plaques qui peuvent aussi se rapprocher, entraînant la formation des montagnes, ou de zones de subduction, c'est-à-dire une plaque qui passe sous une autre, la croûte retournant ainsi au manteau. La Terre a un satellite qui s'appelle la Lune. La Lune se forme quelque temps après la Terre, il y a 4,53 milliards d'années. Le consensus concernant la formation de la Lune, c'est l'hypothèse d'un impact géant, selon laquelle un impacteur, communément appelé Theia, de la taille de Mars et d'une masse environ égale à un dixième de la masse terrestre, serait entré en collision avec la Terre. Dans ce modèle, une partie de cet objet se serait agglomérée dans la Terre, tandis qu'une autre, mêlée avec à peu près 10% de la masse totale de la Terre, aurait été éjectée dans l'espace, puis se serait assez rapidement agglomérée pour former la Lune. À la suite de cet impact, une activité volcanique intense apparaît. Elle est associée à d'importantes températures, jusqu'à 10 000 degrés. Elle produit une atmosphère primitive par dégazage. De la vapeur d'eau condensée, ayant plusieurs origines possibles, par exemple de la glace apportée par des comètes, produit des océans lorsque la température s'abaisse. Les gaz à effet de serre de cette atmosphère permettent de maintenir une température compatible avec la présence d'eau liquide à la surface de la Terre, empêchant les océans de geler, alors que la planète ne recevait qu'environ 70% de la luminosité solaire actuelle. Si l'atmosphère n'avait pas produit cet effet de serre naturel, qui conserve une partie de la chaleur provenant du Soleil, la température actuelle de la surface de la Terre serait négative, à peu près moins 18 degrés. Selon une moyenne calculée par des scientifiques, la température moyenne sur toute l'année à toute la surface de la Terre, c'est 15 degrés. Il y a environ 4 milliards d'années, il est supposé qu'une activité chimique intense dans un milieu hautement énergétique a permis de produire une molécule capable de se reproduire. La vie elle-même serait apparue 200 à 500 millions d'années plus tard. Vers moins 3,5 milliards d'années, c'est le départ de l'évolution et de la biosphère. Cette date, c'est celle donnée par la plus ancienne preuve fossilisée de micro-organismes trouvés en Australie. À peu près à la même époque, le champ magnétique de la Terre se forme. Grâce au mouvement du noyau métallique, ce champ magnétique est appelé bouclier magnétique. Il permet de dévier les vents solaires chargés en particules très ionisées et permet d'éviter à l'atmosphère d'être emportée par ces vents. Vers 2,5 milliards d'années avant notre ère, c'est l'apparition de la photosynthèse chez les cyanobactéries. De l'oxygène libre, O2, se forme. Cela conduit à un bouleversement économique majeur. C'est appelé la grande oxydation, en formant une couche d'ozone qui fait graduellement évoluer l'atmosphère alors riche en méthane en celle actuelle, principalement composée de diazote et de dioxygène. C'est toujours la photosynthèse qui permet de maintenir le taux d'oxygène dans l'atmosphère terrestre et qui est à l'origine de la matière organique, essentielle à la vie sur Terre. Du fait de l'augmentation de la concentration en oxygène dans l'atmosphère, des organismes multicellulaires appelés eucaryotes voient le jour. Les plus anciens retrouvés datent de moins de 2 milliards d'années. Les eucaryotes forment par la suite des colonies, et protégés des rayons ultraviolets par la couche d'ozone, ces formes de vie pourraient avoir colonisé la surface de la Terre. Depuis quelques années, l'effet de serre est menacé par des activités humaines qui affectent la composition chimique de l'atmosphère, ce qui a pour conséquence la création d'un effet de serre additionnel. Ce dernier est l'un des principaux responsables des changements climatiques actuels. On voit bien que l'apparition de la vie sur Terre est la conjonction de beaucoup de facteurs. La taille de la Terre, sa situation par rapport au Soleil, la composition de son noyau qui entraîne la présence d'un champ magnétique, la chaleur interne qui provoque le renouvellement de la croûte terrestre, assurant un cycle du carbone par renouvellement de la croûte, l'impact de la superastéroïde Theia qui a relancé l'activité volcanique et permis le dégazage. Autant de paramètres finement ajustés pour permettre à la vie d'éclore de se répandre et de se complexifier jusqu'à des êtres capables de penser leur évolution même. Alors même si la recherche de la vie sur d'autres planètes de l'univers est un champ de recherche intense parmi les scientifiques, il n'a pour l'instant pas conduit à découvrir d'autres formes de vie, même primitives. Tâchons donc de préserver le délicat équilibre qui depuis des milliards d'années a concouru à notre présence.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Regardons maintenant la Terre d'un point de vue d'astronome. La Terre a une orbite elliptique autour du Soleil, mais quand même assez proche du cercle. Elle met précisément 365 jours, 5 heures, 4 minutes et 45 secondes à parcourir ce chemin, dans le sens anti-horaire. Ça, c'est la révolution. La planète Terre tourne également sur elle-même. Ça, c'est la rotation. Elle met 23 heures, 56 minutes et 4,1 secondes à tourner sur elle-même. C'est ce qu'on appelle le jour sidéral. Mais comme pendant ces 23 heures, elle s'est déplacée sur son orbite, elle met 24 heures tout rond à revenir en face du Soleil. Ça, c'est le jour solaire. Son axe est incliné par rapport à son orbite. C'est-à-dire que contrairement à une toupie qui tourne bien verticalement, la Terre, elle, tourne dans un axe qui fait un angle de 23 degrés par rapport à la verticale de son plan orbital. C'est le cas pour presque toutes les planètes du système solaire. Les planètes orbitent autour du Soleil quasiment toutes dans le même plan orbital. Par rapport à ce plan, les obliquités des planètes sont très variées. Mercure, par exemple, tourne verticalement. Jupiter, elle, tourne avec un angle de 3 degrés. La Terre, Mars, Saturne et Neptune, selon un angle d'une vingtaine de degrés par rapport à la verticale. Uranus, elle, donne l'impression de rouler sur son orbite. Elle a une obliquité de 98 degrés. Et Vénus, elle, tourne dans le sens inverse de toutes les autres. Mais en fait, on peut considérer qu'elle a un angle de 170 degrés avec la verticale. Elle tourne la tête en bas. La théorie privilégiée par les scientifiques, c'est que l'inclinaison des planètes du système solaire ont été causées par des chocs. En effet, d'autres corps célestes seraient entrés en collision avec les différentes planètes, y compris la Terre. Ce sont des protoplanètes qui sont entrées en collision avec des planètes naissantes juste après l'apparition du système solaire. Concernant la Terre, c'est probablement la collision avec l'impacteur Theia qui a provoqué la création de la Lune et décalé l'axe de rotation terrestre.
Mes gestes pour apaiser tes peurs. Accroché à ma terre, les yeux levés vers le ciel, je cherche la lumière à rallumer le soleil. Accroché à ma terre, je cherche la lumière. Je te promets pas l'or et l'argent, mais des montagnes de sentiments.
La rotation de la Terre autour de son axe se fait en 24 heures. Une journée, pendant laquelle on alterne le jour et la nuit. L'inclinaison de l'axe de rotation a aussi un effet sur la planète et toute forme de vie qui la peuple. Grâce à l'inclinaison de la Terre, les saisons existent. Alors comment est-ce possible? L'axe de rotation et son inclinaison restent toujours dans la même position durant tout le trajet autour du Soleil. C'est-à-dire que vu de très loin à l'extérieur du système solaire, l'axe de la Terre est toujours incliné de la même façon. Mais en fonction de l'endroit où se situe la Terre, sur le plan orbital, les rayons du Soleil ne vont pas toucher la Terre de la même façon. Par exemple, de mars à septembre, c'est l'hémisphère nord qui est le plus exposé aux rayons du Soleil. À cette période de l'année, l'axe de la Terre est penché vers le soleil au nord. C'est-à-dire que les rayons du soleil atteignent la Terre avec un angle quasiment perpendiculaire et peuvent donc transmettre toute leur énergie sur une plus petite surface. Dans l'hémisphère sud, c'est alors l'inverse. Les rayons du soleil arrivent de biais et transmettent la même énergie mais sur une surface plus grande. Il fait donc moins chaud. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Ça changera au fil de l'année et ça s'inversera. La partie sud de la Terre sera donc plus exposée les 6 autres mois de l'année. Cela affecte aussi la durée des nuits et des jours. Pendant l'été, le soleil apparaît plus haut dans le ciel et y reste plus longtemps. Les jours sont plus longs que les nuits. Et plus les latitudes sont grandes, plus cet effet est perceptible. En effet, à l'équateur, on observe très peu de différence entre le jour et la nuit. Par contre, au niveau des pôles, il y a une différence beaucoup plus forte. Il fait jour 6 mois de la nuit, de l'année, et nuit 6 mois de l'année. La Terre a un unique satellite, c'est la Lune, qui est officiellement appelée Terre 1, et qui tourne autour de la Terre, sur une trajectoire proche d'un cercle. La Lune est en moyenne à 385 000 km de la Terre. La Terre a aussi toute une myriade de satellites artificiels qui tournent autour d'elle. Ces satellites jouent un rôle important à la fois sur les plans économiques, pour les télécommunications, le positionnement GPS, la prévision météorologique, sur le plan militaire, pour le renseignement, ou sur le plan scientifique, l'observation astronomique, l'observation de la Terre, l'océanographie ou l'altimétrie. C'était le dernier jour de cette série d'été. J'espère vous avoir fait voyager dans l'espace et dans le temps. J'espère que vous êtes émerveillés sous la voûte céleste et que maintenant les constellations les plus visibles évoquent pour vous des reines antiques et des combats avec des dragons.